Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec Pierre-Jean Brassac. Je reçois ce jour un homme qui me rappelle irrésistiblement une phrase du grand Pessoa ou Pechoa, ça dépend comment...
Pesson, oui, voilà. Personne.
Qui a dit « N'être qu'un est une prison ». À cet homme-là, mon invité est véritablement un homme libre, si j'en crois la richesse et la diversité de son parcours. Bonjour Pierre-Jean Brassac.
Bonjour à vous.
Alors Pierre-Jean Brassac, je parlais d'un parcours, on va essayer de parcourir le parcours justement, extrêmement varié. Et la première chose qui m'a marqué, c'est que vous avez fait un master de langue néerlandaise. Alors pourquoi vous avez des attaches néerlandaises, des origines?
Oui, oui, j'ai vécu 20 ans aux Pays-Bas et évidemment j'ai accumulé un petit peu de savoir concernant la langue. Et j'avais d'ailleurs en tête de devenir, si je pouvais, presque aussi néerlandais que les néerlandais. C'était un peu un match de boxe, mais amical. Et donc, au sortir de ce séjour, je me suis dit que je pourrais peut-être confirmer ce petit savoir que j'avais par un diplôme universitaire, voilà, que j'ai passé à Nantes, à Amsterdam et à Louvain. Et puis voilà, ça ne me donne rien de plus, mais au moins je garde cette idée que je suis un petit peu fluent, comme on dit en anglais, en néerlandais.
Vous êtes allé aussi en Suisse, vous avez fait de la... Alors, pédagogie, m'avez-vous écrit CFH?
Alors, il va falloir
décoder.
Oui, tout à fait, les acronymes ne parlent pas d'eux-mêmes. En fait, il s'agit du centre... de l'horlogerie, de la Fédération de l'horlogerie, qui est une espèce d'organisme...
En Suisse, c'est presque normal, hein, mais c'est le chocolat, voilà, ou c'est, l'horlogerie.
C'est universitaire, mais c'est la montre et les diamants d'ailleurs. Et il s'agissait de glaner des méthodes pédagogiques, en fait on emploie le mot pédagogique, mais il est erroné, puisqu'il s'agissait de formation des adultes, donc d'une formation qui a duré 2 ans, et c'était la grande époque en France, où je suis revenu après, avec ce nouveau savoir-faire, c'était la grande époque de la formation continue, je crois que c'était les années 72, 74, quelque chose comme ça en France. Et donc, ces gens à Lausanne, dans la rue des Petits Chênes, qui est en pente, c'est pas étonnant, m'ont formé.
Et puis, Académie de peinture à La Haye.
Oui, bon, ça c'était pour le loisir, mais c'était tout de même une formation exigeante avec des gens qui étaient eux-mêmes des peintres depuis toujours. Il y a beaucoup de peintres aux Pays-Bas, c'est pas un secret, c'est l'autre pays de la peinture. Et pour s'installer un peu plus comme ça dans le plaisir des beaux-arts aux Pays-Bas, passer par un atelier... même si on n'a pas énormément, ou pas du tout, comme c'est mon cas, de talent pour la peinture, apprendre le portrait comme ça, à la faveur de séances longues et parfois un peu fastidieuses, mais ô combien intéressantes, c'est un moment qui marque dans la vie. Voilà, comment obtenir une ressemblance avec seulement du fusain, vous qui êtes en face de moi, Jacques Lavergne, voilà, bah, je pourrais aussi peut-être essayer, de, pas maintenant, mais plus tard,
de me croquer,
de vous croquer, dans le bon sens.
Je l'entends bien. Et puis après, toujours dans ce que j'ai lu en préparant cette émission, des langues, alors des langues anglais, néerlandais, allemand, grec, espagnol, portugais, suédois. Quelques notions d'italien, dites-vous, avec cette modestie qui vous caractérise, et puis du russe. Alors, excusez-moi du peu, mais vous parlez toutes ces langues?
Alors non, d'ailleurs, je dis quelques notions, parce qu'effectivement, c'est plus ou moins couramment. D'abord, vous le savez, bien sûr, parce que vous parlez aussi d'autres langues, que la maîtrise d'une langue est fonction de la gymnastique que vous pratiquez vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire que si pendant des années, vous ne parlez pas telle langue, même quand vous avez été très, très à l'aise dans cette langue, la tendance quand même à disparaître. Il faut quelques jours, voire quelques semaines, parfois des mois, pour retrouver la même performance, je dirais, qualité. Mais il est vrai que je suis d'une famille qui a parlé des langues. Mon grand-père était français, mais il vivait en Russie. Donc j'avais ça dans l'oreille. J'avais aussi cette espèce de défi. Vous savez, les grands-pères, je crois, comptent beaucoup dans la formation des enfants.
Oh oui.
Vous en êtes d'accord?
Oui, tout à fait. Oui, je dois beaucoup au mien, Pierre Pagès.
Voilà, voilà. Et donc, mon grand-père m'a, de ce point de vue-là, marqué. Il parlait 10 langues. Et je me suis dit, moi, de toute façon... une chose est sûre, il faut que tu parles au moins 10 langues, tu connaisses au moins 10 langues. Alors j'y suis pas arrivé, mais bon, j'ai tendu vers cette étoile inaccessible pour moi.
Alors quand on parle néerlandais, quand on a fait la pédagogie à Lausanne, donc on est de nous parler, l'académie de peinture, on parle 6, 7, 8 langues, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça?
Qu'est-ce qu'on fait? Alors... D'abord, dans un premier temps, on entre dans une entreprise, une grande entreprise, c'était mon cas, un grand groupe international, mais d'origine française, en France et aux Pays-Bas, en Allemagne un peu aussi. Et puis après, quand on atteint la quarantaine, comme ça, on se dit que bon, on peut peut-être voler de ses propres ailes. Alors bien sûr, on perd tous les moyens qu'on avait dans le grand groupe, y compris même sa secrétaire et ses assistants et tous les moyens budgétaires qui vont avec. Mais on se dit qu'on a peut-être une boîte à outils. On part avec un savoir-faire là aussi et qu'on pourrait peut-être l'utiliser de façon beaucoup plus modeste, mais avec peut-être plus de plaisir encore. Et c'est ce que j'ai fait.
Alors ce grand groupe, vous ne l'avez pas cité?
Non, je ne l'ai pas cité. Je peux le citer, c'était oui. L'Oréal.
Alors L'Oréal. Qu'est-ce que vous faisiez chez L'Oréal?
Alors j'étais dans
ils
la...
Sont, ils ne font pas dans l'horlogerie
non, c'est vrai, ils ne font pas
dans... Ni dans la peinture d'ailleurs, je ne crois pas. Enfin, c'est peut-être la peinture de certains visages, voilà, c'est ça.
D'accord, ce n'est pas de la peinture. En fait. Je suis plus respectueux que ça. Parce que... Ou alors c'est de la peinture et c'est loupé. Non, alors... Ce grand groupe m'a d'abord coopté comme justement directeur de la pédagogie, de la direction Parfait et Beauté. Et puis ensuite, j'ai eu une formation, un master de l'administration des affaires. Et je me suis retrouvé aux Pays-Bas, tout naturellement, parce que j'avais déjà des affinités culturelles avec ce pays, et affectives aussi. Je me suis retrouvé à la direction générale de filiales de L'Oréal. Je dirigeais trois filiales, avec des marques qu'on connaît, qui étaient Lancôme, qui étaient Biotherme, qui étaient Vichy, voilà.
Et vous êtes réalisé chez L'Oréal? Parce que des maisons comme ça... On est un pion, même peut-être un peu plus qu'un pion. Vous étiez un fou sur l'échiquier.
Oui,
mais...
peut-être. Oui, je ne pensais pas beaucoup aller aux échecs, parce qu'on était effectivement dans une maison où on réussit, je dois dire. Mais au bout d'un certain temps, et je devais avoir passé la quarantaine, la croissance du chiffre d'affaires d'année en année, avec des progressions à l'époque qui étaient du genre, qui étaient en tout cas double chiffre. C'était toujours des 20%, 30%.
C'était une heureuse époque.
Oui, c'était encore les 30 glorieuses, pas si glorieuses que ça d'ailleurs. Eh bien, ça ne faisait plus battre mon cœur plus vite. Et je me suis dit qu'il fallait que j'aille trouver d'autres défis, peut-être plus personnels, beaucoup plus modestes, mais qui me permettent de m'accomplir. Ce qui n'était pas le cas, malgré évidemment les avantages économiques que je retirais de ce métier.
C'est une décision un peu lourde, lorsqu'on a tout autour de soi, finalement, ouais. On est entre guillemets arrivé, on a encore des marges de progression peut-être dans la maison, dans celle-là ou dans une autre.
C'est vrai.
Et dire, je vais faire autre chose autrement et ne plus dépendre que de moi, c'est pas rien.
Mais je retiens le mot que vous venez de prononcer, Jacques. Vous avez dit arrivé. Justement, peut-être j'étais arrivé, j'étais pas arriviste, enfin j'espère, mais j'étais arrivé à un point où ça ne m'amusait plus. Alors, amuser, c'est une chose, mais s'accomplir, se réaliser dans un travail, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et c'est pour ça que je me suis donc tourné à la fois vers les entreprises culturelles françaises et surtout du Midi. Et puis l'écriture, un peu le journalisme, la critique littéraire.
Voilà. Vous avez été quand même journaliste dans Ouest France, France Ce Soir, c'est Midi ça. Libre, l'Indépendant. Donc,
tout à fait.
Globalement, des journaux, au moins pour les deux derniers qui font partie du groupe La Dépêche.
À l'époque, non, Midi Libre était indépendant, mais indépendant, avec l'Indépendant, d'ailleurs, l'autre journal. Mais oui, c'était, alors ce passage m'a beaucoup plu aussi.
Comment vous avez eu l'idée de devenir journaliste ? Parce que vous n'aviez pas forcément, vous aviez été cadre d'entreprise, vous aviez géré. Alors, vous retrouvez journaliste, ça n'a strictement rien à voir, c'est un autre univers.
Sauf que moi, avant de quitter la France, j'étais journaliste, j'avais fait un peu de journalisme suite à mon séjour en Angleterre, après Sosséan et à Ouest-France. Et donc, j'avais cette sensibilité. Mon père était journaliste à l'agence France-Presse. Mon oncle était journaliste à l'agence France-Presse. Oui, mon grand-père était journaliste.
Les gènes étaient là.
Voilà.
Et qu'est-ce que vous couvriez comme journaliste ?
Alors, je faisais ce qu'on appelle les actus, quoi, les faits divers, etc. Sauf pour François, où je faisais les chroniques culturelles pour la moitié sud de la France. Alors ça, c'était formidable parce que je me baladais d'un festival à un autre, j'allais voir un musée, j'allais voir une entreprise culturelle, ça, c'était très intéressant.
Comment vous jugez cette presse aujourd'hui de province qui a quand même bien changé ? Il y a les difficultés que l'on sait, mais souvent, quand on lit ces journaux, on est un peu surpris de la qualité, ou plutôt de l'absence de qualité de rédaction. Il y a de grosses fautes, de gros pièges dans lesquels on tombe facilement. On a l'impression que c'est rédigé par des stagiaires.
C'est vrai, vous avez raison. Pas sur ce dernier point, parce que c'est vrai que ce n'est pas rédigé par des stagiaires, mais c'est rédigé dans une grande hâte. C'est aussi la pression économique qui joue beaucoup, qui joue sur les effectifs disponibles, sur le fait que il y a une accélération. Vous savez, le philosophe allemand Hartmut Rosa vient d'écrire un livre sur l'accélération, qui est, je crois, un des grands mots de notre époque, qui touche tous les secteurs et bien sûr aussi la presse. D'ailleurs, que prenons le cas du livre justement. Je vous ai parlé tout à l'heure de critique littéraire. Moi, une activité qui me plaît beaucoup, que je trouve très intéressante. Mais je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais je prends le temps de lire un livre du début jusqu'à la fin avant de le chroniquer. Sinon, je me sentirais malhonnête. Eh bien, je crois que malheureusement, dans la presse, mes collègues, même les meilleurs de mes collègues, n'ont pas le temps matériel. On ne leur donne pas le temps, par exemple, de lire un livre qu'ils doivent chroniquer ensuite. Donc, à partir de là, il ne faut pas s'étonner que les choses soient, je ne dirais pas de mauvaise qualité, parce que tout de même, il ne faut pas non plus en remettre, mais on n'arrive pas à atteindre le niveau souhaité par les lecteurs, surtout s'ils sont exigeants, comme je suppose vous l'êtes, vous, Jacques.
Comme on ne leur donne plus non plus les moyens de faire du terrain, hein, beaucoup de choses se passent à partir de dépêches d'agences, Internet et autres réseaux. Voilà. La qualité de la rédaction et de l'information en souffre.
Oui, parce que du coup, on est dans une espèce de redondance d'écho permanent, d'effet Larsen, puisque on utilise un micro justement, un effet Larsen de l'information qui se répète infiniment, comme dans un palais des glaces, vous savez, où on se voit en abîme 25 fois. C'est un peu ça aussi notre presse aujourd'hui.
Qui c'est qui lit la presse aujourd'hui, au quotidien ? Alors, c'est une question que je poserai dans 15 jours à la dame qui sera à votre place, qui est Marie-France Marchal-Baillet, qui viendra nous parler du groupe de la Dépêche et de son ensemble de journaux, parce qu'il y en a beaucoup dans ce groupe-là. Donc, quelqu'un qui connaît bien ce type de presse, admirablement bien, j'imagine que ça doit être quand même extrêmement compliqué.
Oui, pour les raisons qu'on vient de citer, c'est-à-dire que l'assiette budgétaire n'est pas non plus infinie et qu'il y a des critères de gestion à observer. Il y a bien sûr les effectifs, il y a la masse salariale, il y a la concurrence, il y a l'accélération. Regardez en ce moment ce qui se passe.
On peut rajouter aussi le papier, dont les prix grimpent de façon astronomique depuis déjà des mois.
Mais tout à fait. Donc ce sont des paramètres qui augmentent encore l'exigence et c'est vrai qu'ils réclament une qualité de management de plus en plus importante, mais nul n'est tenu à l'absolu.
Certes, certes, mais on peut se demander qui c'est qui lit vraiment tous ces journaux, dans la mesure où on nous dit en permanence, on nous le répète ad nauseam, que les jeunes ne lisent plus, ou que s'ils se renseignent, c'est sur le smartphone, avec quelques coups d'œil rapides à des réseaux. Donc est-ce que ce type de presse, ou la presse même en général, est condamnée selon vous, qui avez vu toute cette évolution ?
Oui, je n'ai pas vu toute l'évolution, mais il me semble qu'il va falloir trouver très très vite, surtout si on fait de la presse écrite, c'est-à-dire du papier, comme vous venez de le rappeler, il va falloir trouver très très vite des solutions, peut-être comme ce magazine qu'a sorti Eric Fotorino, par exemple, qui est un format étrange.
Le 1. Voilà, que j'ai à côté de moi, d'ailleurs, qui est un format...
Ah bon, vous l'avez...
Oui, je l'ai là, voilà. Je peux même le sortir.
Vous pouvez le lire, voilà, il sera heureux.
Je peux lire, mais c'est vrai que c'est un format surprenant, mais on y apprend beaucoup de choses, voilà. Parce qu'on prend un thème, et sur ce thème, il y a plusieurs avis.
Voilà.
Et des avis parfois extrêmement décalés, il y a même la poésie à la fin.
Tant mieux.
C'est extrêmement enrichissant de lire ce genre de choses.
Je pense que c'est très intelligent.
Par contre, vous ne pouvez pas le lire dans le métro, parce que quand vous le déployez entièrement...
Vous donnez un coup de poing à votre voisin et il n'a rien fait.
Voilà, c'est ça, mais on peut le rappeler, ça s'appelle le 1, ça paraît tous les mercredis, comme jour de parution également du Canard Enchaîné. Donc c'est vrai que ça a renouvelé passablement le format, les habitudes. C'est un peu comme cette radio sur laquelle on est. La consommation de radio ne se fait plus comme elle se faisait autrefois. C'est-à-dire qu'on écoutait la radio en permanence dans la voiture ou ailleurs. Maintenant, on téléphone. Donc, il faut inventer.
On écoute aussi. Quand même.
On écoute un peu, mais bon, les gens préfèrent écouter ce qui leur plaît quand ils ont le temps ou l'envie de le faire. D'où l'idée qui m'est venue, mais pas qu'à moi bien évidemment, de faire des podcasts, une bibliothèque de podcasts. Parce que si aujourd'hui là nous étions en direct, je ne suis pas certain qu'on réunirait une masse d'auditeurs extrêmement importante.
Oui, c'est ça.
Donc
c'est...
il faut s'adapter, il faut savoir s'adapter, mais ça va quand même coûter très cher à la presse de s'adapter.
La presse
notamment
écrite,
en termes d'effectifs.
Oui, absolument.
Alors, c'est pas qu'on manque de renseignements. Si on allume la télévision, on voit toutes ces chaînes en continu qui vous déversent des informations, des analyses.
C'est
insupportable. Ouais. Insupportable.
Absolument.
Puis il n'y a pas de recul. On vous balance à chaud des propos qui tendent vers ceux du graphique du commerce.
Mais vous voyez, ça, c'est une autre civilisation là, dont on parle. Parce que les médias, bien sûr, c'est un phénomène très important. Mais le monde de l'entreprise est logé à la même enseigne. C'est-à-dire qu'il y a une accélération phénoménale de la gestion dans les entreprises. Moi, quand j'étais encore en poste dans mon groupe, j'ai vécu l'arrivée du fax. Alors, autrefois, j'envoyais des résultats économiques au siège à Paris, depuis Amsterdam, à peu près toutes les 4 semaines, tous les mois. Et puis, à un moment donné, on m'a dit, tu sais, tu devrais acheter un fax. Le fax, à l'époque, il coûtait à peu près l'équivalent de, allez, on va dire, 20 000 euros, le premier fax. Hein, c'était absolument aberrant. Mmh. Et après, on connaît le prix, ça coûte 50 euros maintenant, je suppose. Bon. Et puis, bien sûr, on
a
dit...
Il n'y en a plus, surtout.
Pardon ?
Il n'y en a plus,
il y en a plus. On peut en acheter encore, mais il n'y en a plus. Ou presque pas. Et on m'a dit, tu vois, maintenant, tu vas nous envoyer des résultats par fax, ça sera plus pratique. Alors, on a commencé, et puis on m'a dit, tiens, tu feras ça toutes les semaines, maintenant, plutôt, parce que avec le fax, c'est facile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un effet, une espèce de pression sur la structure pour qu'on dispose de façon hebdomadaire, tout à coup, des résultats qu'on collectait mensuellement auparavant.
On n'était pas plus performant pour autant.
Exactement.
Malheureusement. Mais on passait plus de temps peut-être à faire des statistiques, des résultats, des écritures.
Jusqu'à ce que l'ordinateur les fasse de lui-même. Et puis, l'accélération, après on est évidemment arrivé au temps réel, donc les résultats arrivent. Et qu'est-ce que ça donne ? Dans l'entreprise, en tout cas, il me semble que ça a ramené la réflexion au temps réel, au lieu de l'avoir dans une perspective à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. On fait beaucoup moins cela maintenant. On réagit, on le voit d'ailleurs en politique, il me semble. on réagit sur l'instant.
Oui, ce qui donne des résultats, que ce heurté. Soit dans l'entreprise en politique, heurté, un peu erratique. Parce que
on avait oublié que
l'affect prédomine plutôt que l'analyse, que la technique.
Je suis d'accord, l'affect, voilà. On est dans l'affect et le très court terme.
On fait une première pause musicale pour nous. Oui. Nettoyer un peu de ces propos extrêmement pessimistes. C'est vous qui l'avez choisi, alors je vous laisse le prononcer, puisque vous
êtes un peu pessimiste.
Disons qu'on a constaté une accélération.
Vous savez ce qu'on dit, le pessimisme, alors, le pessimisme, la volonté pessimiste, mais l'intelligence optimiste.
On va essayer effectivement de faire preuve de plus d'intelligence. Palabras?
Palabras para Julia.
Paco Ibáñez.
Paco Ibáñez.
Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso.
Donc Voilà, magnifique texte de Paco Ibáñez, enfin chanté par Paco Ibáñez.
Oui, qui est de Gauti Solo.
Qui chante, je vous laisse prononcer le nom de l'écrivain, c'est José...
Gauti Solo.
Gauti Solo, oui, c'est pas très, très simple à prononcer.
Non, c'est vrai.
Et nous retrouvons, et vous venez d'entendre, Pierre-Jean Brassac, qui est l'auteur de ce choix, donc Pierre-Jean Brassac,
merci donc, à vous.
Qui nous a parlé, mais on est ravis de vous avoir ici, sur Esprit Occitanie, qui nous a parlé un peu de son parcours antérieur, très, très varié. Et aujourd'hui, nous allons en venir maintenant à son occupation, alors principale aujourd'hui, j'imagine, mais que vous avez certainement, Pierre-Jean Brassac, démarré il y a longtemps, tout simplement parce que vous êtes écrivain,
oui.
Et vous avez au compteur, quand je l'ai vu, je m'y suis repris à deux fois pour le voir, et je vous ai demandé de le préciser avant qu'on commence l'émission, vous avez écrit 75 livres, ce qui est absolument considérable. Vous avez commencé quand ?
Alors j'ai commencé il y a assez longtemps tout de même, on va dire que j'ai écrit depuis 50 ans, j'ai 75 ans, et donc j'ai commencé, j'avais 25 ans, mais j'ai commencé plus tôt, d'ailleurs j'écrivais, j'avais 12-13 ans, parce que je voulais être comme mon père.
Écrire c'est une chose, être publié c'en est une autre.
Donc
75 livres publiés,
oui.
C'est pas rien,
alors,
c'est considérable.
Oui, c'est tout à fait vrai. Oui, parce que c'est pas toujours facile.
Michel Onfray n'en est qu'à 100, je crois, donc
oui.
Vous le talonnez presque.
Oui, j'ai
et pourtant,
pas son
Dieu,
talent, je pense.
Dieu sait qu'il est productif.
Oui, il est très productif. Eh bien, j'ai commencé par un livre en néerlandais. Mon premier livre, curieusement, est un livre en néerlandais.
Alors, vous l'avez écrit en néerlandais ?
Oui, tout à fait.
Mais vous êtes bilingue ?
Ah oui, je suis bilingue parfait, néerlandais, oui.
Quand vous pensez en néerlandais ou en français ?
Mais avec vous, je pense en français, mais avec des néerlandais, je pense en néerlandais.
Automatiquement, vous vous mettez en mode néerlandais.
Ah oui, bien sûr. Et je rêve aussi en néerlandais, je suppose. Ça m'arrive. Oui, je rêve en néerlandais.
Donc vous avez écrit dans votre premier livre dans une langue qui n'était pas la vôtre.
C'est ça.
Difficulté supplémentaire, j'imagine.
C'est vrai, c'est un peu lourd. C'est un peu, on a l'impression d'avoir des chaussures de plomb quand on avance sur les pages, mais bon.
Pourquoi vous avez fait ce choix de l'écrire en néerlandais ?
Alors j'en ai fait deux. Hein. J'en ai publié un et l'autre n'est toujours pas publié. Il ne le sera sans doute jamais. Parce que je vivais aux Pays-Bas aussi et que j'écrivais, j'avais écrit quelques... livre en français, et puis étant aux Pays-Bas et maîtrisant la langue néerlandaise, je m'étais dit que je pourrais essayer aussi là de publier. Effectivement, j'en ai publié un, mais qui est un livre qui n'est pas du tout littéraire, puisque c'est un livre sur, on va dire, pour aller vite, la psychologie de l'odorat, de l'olfaction, vous voyez. Donc c'était en lien beaucoup plus avec mon métier de l'époque, parce que c'est vrai que l'olfaction, les parfums me passionnaient, c'est le seul domaine dans lequel, moi en tant qu'homme, je me sentais à l'aise dans un milieu cosmétique, parce que les parfums font appel à une espèce de création, comme la peinture, il y a une synesthésie, hein, comme on dit chez Baudelaire par exemple, les sons, les sens se répondent. Et avec l'odeur, justement, j'ai travaillé sur les liens entre la couleur et l'olfaction. Ça, c'est très, très intéressant. Il y a donc des odeurs jaunes, il y en a des bleues, il y en a des vertes. Et quand on a établi une charte comme celle-là, on peut après se mettre à parler de l'odeur, ce qui est autrement très difficile. Vous avez sans doute remarqué que dans notre vocabulaire, pourtant riche en adjectifs, il est très difficile de décrire une odeur et qu'on a souvent appel, enfin, on fait souvent appel à des mots issus des autres sens. C'est-à-dire, on va parler d'une odeur chaude, mais c'est le tactile, ou on va parler d'une odeur sucrée, c'est le gustatif. Mais l'olfactif n'est toujours pas concerné par ces mots.
Alors vous avez parlé, je prends un exemple, mais vous avez parlé d'odeur jaune. Alors, qu'est-ce que c'est ? Moi, j'ai du mal à me représenter ce que peut être une odeur jaune.
Alors, oui, une odeur jaune, c'est une odeur qui s'est un petit peu épicée, un petit peu boisée aussi, qui n'est pas loin du fruit, par exemple, mais c'est tout simple, parce qu'il suffit de... ça peut être un peu citronné. Alors, si on fait un pendant, une correspondance avec la musique, on se dit, ça va être flûté. Vous voyez ? Donc parce que nos sens, on sait bien que la synesthésie est quelque chose qui existe de façon permanente dans notre perception, notre représentation du monde, dans la mesure où, quelque part dans notre cerveau, toutes ces informations, ces impressions convergent.
Qu'est-ce qui peut permettre d'attribuer à une odeur que vous avez parfaitement bien décrite, la couleur jaune ? pourquoi la couleur jaune, pourquoi pas la rouge, la verte?
Oui, oui. Alors, les sensations qui sont liées à la perception de la couleur jaune ne sont tout de même pas les mêmes que celles qui sont liées au rouge. Ça paraît un peu évident comme ça. Donc après, il y a un travail effectivement à faire sur la perception qui permet de déterminer une espèce de cercle chromatique, de cercle chromatique avec des étoiles comme ça, et qui correspondent aussi à des composants, des ingrédients, si vous voulez, des composants olfactifs. Donc vous vous retrouvez, ça ne vous étonnera pas que les fleurs, le floral, soient beaucoup plus près du bleu que du rouge. Alors bien sûr, vous
allez dire, oui, mais la rose... Si je pense à un champ de coquelicot, par exemple...
Oui, ça n'a pas d'odeur, un coquelicot.
C'est vrai.
Si peu. Mais bon, il y a effectivement des roses qui ont une couleur rouge, mais qui pourtant sont... Alors, elles vont... Comme en couleur, on va mélanger, on va dire, ça c'est plutôt un rose, c'est-à-dire un peu de bleu, un peu de rouge. Ouais. Donc on peut suivre un peu ce qu'a fait Delacroix en partant du cercle chromatique qu'avait inventé l'ingénieur Chevreul, qui était au Gobelin et qui devait tout à coup faire un classement. Il y avait 12 000 échantillons, je crois, et il ne savait pas comment s'en sortir, sauf qu'il est ingénieur, donc il avait quand même conçu une méthode. Et ça, à la fin, ça donnait un cercle chromatique, c'est-à-dire un classement de couleurs entre elles-mêmes qui ne sont pas tout à fait l'arc-en-ciel.
Et ça, c'était votre premier livre, donc qui se rapprochait un peu de vos préoccupations professionnelles, puisque c'est vous baignez là-dedans, mais oui. Vous avez attaqué d'autres thématiques, oui. Totalement différentes.
Oui, alors j'ai écrit, bien sûr, enfin, le bien sûr, c'est pour moi le bien sûr, mais c'est pas pour le... J'ai écrit sur les Pays-Bas, un livre que j'ai intitulé le royaume qui porte l'eau à la mer.
Ça, c'était aux éditions Autrement, je crois.
C'est ça, tout à fait. Et alors, c'est un titre que j'ai employé d'ailleurs, j'ai emprunté au roi des Pays-Bas, l'actuel roi, Willem Alexander, parce que c'est un ancien de la gestion de l'eau, ce qui n'est pas étonnant, aux Pays-Bas il y a beaucoup d'eau.
Oui, c'est même la base de la civilisation.
Oui, c'est ça.
Qui pourrait d'ailleurs se transformer un peu un jour en catastrophe. Je crois que c'est Napoléon qui avait imaginé de faire sauter les digues pour noyer le Pays-Bas qui l'agaçait un peu.
Très juste. Mais savez-vous que les Néerlandais eux-mêmes, quand les Allemands sont arrivés, ont fait de même. C'est-à-dire qu'ils ont noyé les Allemands en Zélande, c'est-à-dire juste au-dessus d'Anvers, mettons. Hein,
malheureusement pour l'Ukraine, elle n'est pas au bord de la mer.
Oui, mais là, il n'y a pas le même recours.
C'est vrai que les Néerlandais vivent sur l'eau.
Absolument. Les Pays-Bas, actuellement, ont gagné à peu près un tiers, même peut-être la moitié de leur territoire sur la mer.
Et qui sont en dessous du niveau de la mer pour un certain nombre.
C'est ça, quand on arrive, vous arrivez à l'aéroport d'Amsterdam, à Schiphol, qui veut dire d'ailleurs le trou du bateau, ça veut dire en néerlandais, eh bien vous êtes à 7 mètres en dessous du niveau de la mer.
Oui, ce qui est quand même considérable. Oui, oui, oui. Alors laissons un peu les Pays-Bas, parce qu'on en parlerait beaucoup, et peut-être que vous reviendrez nous parler des Pays-Bas, que nous connaissons extrêmement mal, ça pourrait donner lieu à une deuxième émission. Mais parlez-vous-nous de vos livres. Alors les autres thématiques que vous avez abordées, donc on a vu ça, les thématiques néerlandaises, mais après, vers où êtes-vous allé? Et pourquoi êtes-vous allé dans cette direction-là?
Voilà, il y a aussi les demandes de l'éditeur. Parfois, par exemple, pour Autrement, j'ai fait aussi un livre sur le fait religieux en Europe. C'est-à-dire, il m'a demandé, c'était l'année de la commémoration des 100 ans de la loi sur la séparation des églises et de l'État, et du coup, il m'a demandé un ouvrage qui parle bien sûr de la laïcité, qui soit écrit de façon laïque sur le fait religieux en Europe. C'était très intéressant, c'était pas mon sujet au départ, mais ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis rendu compte qu'il y avait comme ça une espèce de marketing religieux dans certains pays.
Alors comment on passe du parfum, de la couleur, au fait religieux, c'est presque un domaine de sociologue là.
Oui, c'est vrai.
Que vous avez exploré.
Alors, oui, alors c'est peut-être la fibre. Alors d'abord, c'est peut-être trop audacieux, mais enfin bon, dans la mesure où c'est publié, on m'a demandé de l'écrire, pourquoi pas. Mais il y a aussi une façon journalistique, vous le savez bien vous-même, d'aborder un sujet sans être un spécialiste. Il y a cette espèce d'insistance comme ça sur le sujet pour le découvrir, juste en ayant une leçon d'avance sur vos lecteurs.
Donc ça veut dire quand même que vous avez fait de la documentation, vous avez travaillé énormément avant.
Beaucoup de lectures, des bibliothèques entières à un moment donné, surtout sur le fait religieux, parce que vous passez du souffle.
Parce que le fait religieux, c'est quand même extrêmement large.
C'est très très vaste.
Le fait religieux, si vous repartez ne serait-ce que sur le plan historique, il y a de quoi faire 3 tomes, et après, il y a un ensemble de considérations philosophiques qui peuvent vous entraîner très loin.
Et là, vous mettez le doigt sur justement la difficulté, c'est... Où s'arrêter, où commencer.
Voilà, comment circonscrire le sujet.
Comment circonscrire, voilà, exactement. C'était la difficulté.
Et alors, après, vous avez abordé... On a beaucoup de livres sur la table, là. Vous en avez amené un certain nombre.
Oui, oui.
Vous avez un peu tâté, si vous me permettez l'expression, du polar aussi.
Oui, je peux dire que j'en ai fait 5, je crois. 5, oui, c'est ça. 1 médiéval, 2 sur la région, 1 sur la viticulture en Languedoc. Mm-hmm. Puisque j'étais à Midi Libre, j'ai fait beaucoup d'articles et de reportages sur la viticulture. J'aimais bien le côté culturel, ce qu'ils appellent la civilisation vigneronne. J'aime bien ce terme.
Oui, qui est en train de mourir quelque peu.
Il y a du mal, en tout cas.
Oui, il y a du mal, c'est plus que c'était. Et là, l'esprit vigneron, cet esprit d'entraide, de solidarité très fort qu'on a connu, est en train de s'éroder. D'ailleurs, ce n'est pas entièrement déjà réalisé.
Oui, peut-être, vous faites peut-être allusion là, au comité d'action viticole.
Oui, on a été dans une région, l'Hérault, la région également de Perpignan, chez nos amis catalans, où il y a eu des luttes extrêmement dures.
D'ailleurs, j'ai fait un ouvrage qui s'intitule « Les guerriers du vin ». C'est pour dire si je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense que la lutte, au sens où elle existait il y a maintenant 30 ans, 40 ans, a changé à la fois de méthode et d'objectif. Et puis, il y a eu un sursaut qualitatif extraordinaire qui fait que les vins ont gagné aussi en performance.
Ils ont gagné en performance
sur le marché.
L'objet d'attribution n'est pas le vin, mais ils ont gagné en performance, mais ils ne savent toujours pas le vendre.
C'est la difficulté.
Quand on va un peu dans les pays étrangers, on voit du Bordeaux, on voit un peu de Bourgogne, et puis après, ces vins qui sont faits dans nos régions et qui sont souvent extrêmement bien faits,
qui sont pas...
très gratifiants, eh bien, on ne les voit plus. C'est vraiment absolument pas représenté. Ou alors on fait du volume, comme on peut le voir au sud, par exemple, de Carcassonne, avec toutes ces collines plantées de vignes. Bon, on se demande qui c'est qui va boire tout ce vin.
Oui, il y a la production. Et puis il y a les Néerlandais, dirais-je, que nous avons toujours honte de faire du commerce, nous les Français.
Ah oui, on n'aime pas, c'est l'argent, non,
c'est
sale
on
un
on
peu.
On n'ose pas, c'est depuis Philippe le Bel, souvenez-vous. Philippe le Bel, enfin vous ne vous souvenez pas justement,
oui,
tant mieux.
Oui, je vous remercie de l'avoir remarqué.
mais Philippe le Bel, déjà interdisait le métier de banque, et l'argent était sale. Et quelque part, nous le portons peut-être encore... avec nous.
Oui, il y a peut-être
cette objection.
Alors faites donc rêver, vous avez exploré ensuite quels horizons.
Alors, vous me demandiez, des personnages ou des livres qui avaient été pour moi très importants. Une philosophe qui m'a beaucoup marqué, que j'ai lu autant que j'ai pu et que je peux encore, c'est Simone Weil. Alors Simone Weil, avec un W, qui est morte en 1943. Est une philosophe mystique qui est souvent connue par un livre, bien qu'on en ait publié après sa mort une vingtaine d'elle. Ce livre, c'est « La pesanteur et la grâce ». C'est un livre qui a une histoire déjà, le manuscrit a une histoire étonnante. Simone Weil, en 1942, pour fuir le statut... la loi sur le statut des Juifs, se réfugie avec ses parents à Marseille. Et à Marseille, elle se promène un peu en Occitanie. Elle voit des liens d'ailleurs entre la source grecque et l'Occitanie. Elle en parle, elle écrit beaucoup là-dessus.
Pourtant, Marseille n'est pas dans ce qu'on appellerait aujourd'hui notre Occitanie.
Non, non,
politique à tout le moins.
C'est vrai, c'est vrai. Mais elle travaille au Cahier du Sud, c'est ça. Mmh. Hein. Et donc, pour elle, tout ça, c'est un grand pays, notamment pour des raisons aussi philosophiques, des raisons de rapport avec la force. Elle est pour Athènes et moins pour Rome. Rome, c'est l'État. Athènes, c'est l'amour.
Et la culture.
Et la culture. Et donc, voilà, elle penche. Elle dit d'ailleurs de façon très péremptoire, mais elle est morte jeune, elle est morte à 34 ans. Elle dit, après Platon, il n'y a plus de philosophe. Donc déjà, vous voyez, ça nous met dans l'ambiance de sa pensée. Et alors donc, ce livre, La pesanteur et la grâce, il fait partie des valises qu'on a retrouvées chez un vigneron de Saint-Marcel-sur-Ardèche, Gustave Thibon, qui a, pendant tout le temps de la guerre, gardé ses papiers, ses manuscrits, et les a remis à un moment donné à Albert Camus. Lorsque Albert Camus est devenu, je crois en 1946, si je ne m'abuse, directeur de la collection Espoir chez Gallimard, il s'est empressé de publier cet ouvrage, et le titre est de lui, ce n'est pas un titre de Simone Veil. Alors, pourquoi la pesanteur et la grâce? Elle est philosophe mystique, elle est anarcho-syndicaliste.
Oui, elle a travaillé d'ailleurs en usine.
Elle a travaillé chez Renault.
Voilà, ce n'est pas qu'une intellectuelle, elle est allée sur le terrain.
Et elle a écrit La condition ouvrière, donc.
Fameux
bouquin qu'on peut trouver. Alors, La pesanteur et la grâce, c'est parce qu'elle veut nous montrer l'analogie entre les lois physiques et nos lois intellectuelles et mentales. La pesanteur, c'est ce qui nous colle tous au sol. Tous nous appuient la tête et les pieds sur la terre. Et parfois, surtout quand notre corps est fatigué, nous empêche de nous élever par la pensée, par l'intellect. Et puis la grâce, alors qu'on y mette une valeur religieuse ou pas, c'est justement ce que l'on peut atteindre parfois quand nous pouvons échapper, nous pouvons nous oublier nous-mêmes. Et d'ailleurs, elle se sert des Grecs aussi pour ce concept. Elle appelle ça l'attente à vide, hypoménée. Et donc, la pesanteur, c'est ce qui nous colle au sol, encore une fois, et c'est notre condition. Mais on peut sortir de cette condition.
C'est ce qu'on traduirait aujourd'hui par les racines et les ailes, peut-être?
Alors peut-être, c'est un joli mot aussi.
Tu es surtout une émission de télévision.
C'est vrai.
Bien connue, mais finalement, ça revient un peu à ça aussi.
C'est vrai. C'est-à-dire que...
Cette pesanteur qui nous colle au terrain, ce sont nos racines quand même.
Oui, alors...
Donc on a du mal parfois à se désengluer.
Tout à fait.
À prendre de la hauteur.
C'est vrai. C'est vrai, on est toujours tiré vers le bas, vers un certain moment. Aussi parce que, par exemple, on est fatigué physiquement. Et d'ailleurs, Simone Veil a publié aussi, on a publié pour elle, L'enracinement. L'enracinement, pour mémoire, c'est le résultat d'un travail qui lui a été confié à Londres en 1943 dans les services de la France libre par De Gaulle et Schumann, Maurice Schumann. Et on lui a demandé de travailler sur un projet de constitution pour la France, pour la République française. Et alors, bien sûr, il y avait aux États-Unis déjà un psychologue qui s'appelait Maslow, qui a travaillé sur la pyramide bien connue des besoins fondamentaux de l'être humain. Mais elle est allée beaucoup plus loin et elle creuse dans ce livre que je conseille beaucoup, dont la lecture est très salutaire. Elle a travaillé sur l'enracinement, mais qui n'est pas qu'un enracinement physique. Alors, bien sûr, des gens vous disent « oui, mais on n'a pas de racines, nous ne sommes pas des arbres ». Certes, mais notre enracinement peut être Et il est très souvent intellectuel, regardez notre enracinement dans la langue que nous parlons, il est affectif, il est dans la tradition, il est dans tant de choses, l'enracinement, tant de choses qui ne sont pas le sol.
On a déjà pratiquement démarré la séquence littéraire qui normalement doit clore d'autres entretiens, mais nous n'en sommes pas encore là. Je vous propose une seconde pause musicale. Je pense que quand vous allez l'entendre, vous comprendrez pourquoi j'ai fait ce choix.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Voilà, une pause musicale qui est dans l'actualité. Vous ouais. avez reconnu Boris Vian et sa Java des bombes atomiques. Bon, voilà, on va refermer la parenthèse et revenir à des choses peut-être plus... Je ne sais pas si elles sont plus souriantes, mais en tout cas, c'est plus gratifiante intellectuellement avec notre invité, Pierre-Jean Brassac. Alors, Pierre-Jean Brassac, vous nous avez parlé de vos livres, vous avez parlé beaucoup de Simone Veil. Peut-être qu'on fera une troisième émission, puisqu'on a prévu une deuxième sur les Pays-Bas, sur Simone Veil, qui est une femme passionnante. Et je vous parlais off d'une émission que j'avais faite avec une spécialiste de Simone Veil, philosophe, mais il y a quelques années déjà. Et vous avez une autre corde à votre arc, ce qu'on n'a pas abordé, mais vous en avez beaucoup, c'est votre activité de traducteur.
Oui,
le traducteur, c'est presque un peu un écrivain, enfin quelqu'un qui doit tellement adapter que c'est déjà un début de travail d'écrivain, mais un écrivain un peu spécial, puisqu'il ne doit pas trahir celui qu'il traduit.
Oui, oui, malgré le fameux cliché traditeur et traducteur, traître. Mais alors, la traduction, c'est de la co-création tout de même. Donc c'est effectivement une écriture. Puis c'est le traducteur...
C'est une adaptation, dirait un musicien, ou pas ?
Je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que c'est... Alors, il y a de l'adaptation dans la mesure où, effectivement, l'œuvre se transforme, bien sûr, puisqu'elle déjà, elle passe dans une langue, une autre langue que celle dans laquelle elle a été écrite. Et puis, il y a la conscience que le traducteur a du nouveau lectorat. Donc si on traduit un livre anglais, un roman anglais en français, on va penser très fort au lecteur français, parce que parfois il faudra juste être un peu plus passeur que traducteur, et leur, y compris dans les fameuses mentions notes du traducteur, NDT, leur expliquer quelque chose, ou trouver effectivement des astuces qui permettent de rendre bien ce que l'auteur original a voulu dire dans sa langue et qui n'est pas discible au premier degré dans la langue qu'on appelle la langue cible. Hein. Il y a la langue source et puis la langue cible. La langue cible, mettons, dans mon exemple, là, c'est le français. Alors, il y a des degrés de difficulté qui varient suivant la nature des textes. Si vous voulez traduire des sonnets de Shakespeare, bien qu'il existe déjà pratiquement une traduction en français de tous les sonnets, mais si vous voulez vous-même innover et peut-être aller un peu plus loin, il y a une difficulté supplémentaire qui est celle aussi de la forme. Parce que voilà, les sonnets, c'est 12 pieds, c'est 2 quatrains, 2 tercets, donc il faudra y coller. Et après, il y a des références culturelles qu'il faut arriver à faire passer, ce qui n'est pas toujours évident. Mais c'est un métier où on se sent utile, parce que bien sûr, on prolonge, on élargit l'audience d'un auteur. Et si on aime ce qu'on est en train de traduire, on en est heureux déjà.
Pour revenir au polar, il y en a... Il y a un traducteur, c'est Serge Guadopani, que vous connaissez peut-être, qui traduit les œuvres d'Andrea Camilleri, qui a inventé Le commissaire Montalbano. Voilà, formidable. Et qu'il l'a écrit en sicilien, donc avec une langue extrêmement fleurie et particulière.
Absolument.
Et Serge Guadopani arrive à rendre, à adapter, à bricoler, si je puis dire, ou à tordre un peu le bras du français pour essayer de nous remettre dans l'ambiance de cette langue sicilienne, avec ses expressions très très particulières. Donc là, c'est vraiment de la co-création, parce qu'il y a une création originale.
Exactement. Alors, si on prend le néerlandais, par exemple, les néerlandais sont des gens qui usent de beaucoup de proverbes. Ils adorent résumer une situation par l'emploi de proverbes, d'adages. Alors, c'est un petit côté cliché à nos yeux, à nos oreilles en tout cas, mais ça fait partie de la philosophie du néerlandais. Alors, quand il faut traduire des proverbes, alors ou bien on les traduit de façon littérale et ça donne un effet comique.
Ça ne rend pas l'esprit.
Ça ne rend pas l'esprit. Ou bien alors on va chercher, si ça existe quelque part, par exemple les Néerlandais lisent volontiers « moi, moi, dit le fou ». Ils disent ça sans arrêt. « Ik, ik, zei de gek », on dit en néerlandais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire... Pour que tu parles de toi, il faut qu'un autre t'ait posé une question. On ne parle pas, on ne commence pas par parler de soi. Vous voyez, c'est très protestant, il y a un côté comme ça, presque luthérien. Alors, comment rendre ces choses ? Il faut les entourer pratiquement d'une explication, mais on ne peut pas. On n'est pas là pour commenter un livre, on est là pour simplement le traduire. Et voilà le type de difficulté qu'on a, et que moi j'aime beaucoup. Je traduis plus beaucoup de néerlandais littéraire, littéraire si, mais je traduis de la poésie. J'aime beaucoup traduire la poésie parce que c'est encore plus difficile. J'ai traduit il n'y a pas longtemps un auteur flamand qui est Richard Fauquet, qui est l'ancien professeur d'architecture à Anvers, et qui alors lui, en plus c'était une double difficulté, fait une poésie minimaliste. C'est-à-dire qu'il a chaque vers fait chaque ligne, peut-être 10 mots, 12 mots. Et donc on a quelque chose d'extrêmement condensé et qui pose une difficulté. Parce que là où il n'y a pas de proposition, de préposition en français, et en flamand ou en néerlandais, il y en a bien sûr en français. On dit, vous savez, que le français chasse de 15% par rapport aux langues germaniques et anglo-saxonne, et c'est vrai, on s'en rend compte. Chasser, ça veut dire être plus long. Regardez, moi je suis en train de bavarder, le néerlandais aurait déjà fini.
Est-ce que le fait de traduire, c'est quand même se mettre un peu derrière l'auteur, finalement, le traducteur qui fait une œuvre aussi littéraire, mais oui. Il n'est pas considéré comme véritablement l'auteur, donc il faut mettre certainement l'ego dans sa poche et le mouchoir par-dessus.
Oui, enfin, c'est pas...
On est au service de l'auteur.
Du texte.
Voilà, du texte. Et de l'auteur, ouais. Quand même, qui l'a conçu.
C'est vrai. Et de l'éditeur, peut-être, qui veut... Enfin,
est-ce que c'était difficile pour quelqu'un qui est par ailleurs écrivain de se mettre en retrait et de prendre la casquette de traducteur?
C'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand on aime un texte, on est heureux de le traduire, de le porter vers des lecteurs nouveaux. Et le problème de se mettre derrière, non, ça ne m'a jamais... effleuré.
Ça ne vous pose pas de problème. Non. Pierre-Jean Brassac, l'heure passe très vite, et nous sommes d'ailleurs très en retard sur notre marche habituelle, mais ce n'est pas grave, nous avons une conversation, comme dirait Philippe Meyer, à saut et gambade.
Oui, selon Montaigne.
Voilà, selon cette expression que j'aime beaucoup.
Moi aussi.
Et finalement, c'est l'agrément de la conversation, mais il nous faut poursuivre. Alors, on va revenir un peu sur votre personne, vos activités en dehors de l'écriture, de la traduction. J'ai vu lecture publique,
oui.
C'est-à-dire
mettre des textes en valeur et les porter par juste une lecture.
En les faisant vivre.
Oui, c'est ça, à peine théâtralisé, mais dans l'espace. Alors des textes, par exemple, la poésie en Europe, un texte... dans chaque pays, et puis mettre ça ensemble pendant une soirée. Ça a pas mal de succès, d'ailleurs. On l'a fait une fois à Sorèze, village que vous connaissez, je crois savoir.
Oui, et que j'apprécie beaucoup.
moi aussi.
Dans lequel nous retrouverons pour signer des livres, c'est et vous et moi,
possible,
et nos amis
là.
Auteurs, je crois, au mois de juillet, à la mi-juillet.
Oui, voilà. Oui.
Certainement autour d'Anne-Marie Denis, libraire qui est une femme tout à fait extraordinaire et qui fait vivre sa librairie et le livre. Alors il faut lui rendre hommage.
Oui, c'est ce que nous faisons. Oui.
Quand vous n'écrivez pas, quand vous n'avez pas d'activité intellectuelle, je sais aussi que vous vous défoulez, vous avez des activités physiques. Le vélo notamment.
C'est vrai, oui, le vélo, la marche, beaucoup la marche.
La marche, on écrit, moi je marche beaucoup aussi, on écrit dans sa tête. Quand on
ça
fonctionne.
Ça. Moi, je
quand
pense
on arrive, on se met de suite à la table pour...
Oui, moi je note aussi, j'ai des petits carnets. Je pense toujours, alors c'est très très ambitieux évidemment, mais enfin ça me soutient, aux péripatéticiens qui marchaient sans arrêt, qui pensaient à Athènes et ailleurs, en Grèce, qu'il fallait surtout être en mouvement pour mieux penser. Alors j'essaye de mieux penser.
Le neurone s'échauffe quand on... choc des neurones est tout à fait productif,
voilà, et l'oxygène,
à la créativité. Une œuvre d'art, question que je pose traditionnellement en fin d'émission, une œuvre d'art qui vous a marqué, ce serait Bosch pour vous, le chariot de foin?
Oui, chariot de foin, j'ai eu le plaisir d'écrire un livre, une biographie de Jérôme Bosch. Quand on rencontre l'historique de ce tableau, le chariot de foin, on se rend compte que c'est peut-être, je m'avance un peu, le premier tableau occidental qui ose faire une critique sociale. Alors pourquoi ?
Le Caravage, il en avait fait aussi un peu quand même. Hein.
Oui.
Au moins, il mettait en scène des personnages qui étaient de, comment dire, autrefois, d'une basse extraction, ce qui n'était pas trop le genre à l'époque.
Oui, alors, je vais rajouter politique. C'est-à-dire que c'est, il est social et politique. Pourquoi ? Parce que ce chariot de foin, il faut revenir à la langue néerlandaise. En fait, on interprète et on explique mieux Jérôme Bosch, qui paraît compliqué et touffu comme ça au premier abord, quand on se sert justement du corpus proverbial néerlandais, en argot du Moyen-Âge, là on est autour entre le 15e et le 16e siècle, hein, c'est la fin du Moyen-Âge, je crois que le tableau a été peint en 1500, donc c'est pour dire, eh bien le fric, ça se dit hoy. Et hoy, ça veut dire foin. Donc le foin, le chariot de foin, c'est en réalité une espèce de grosse banque comme ça qui passe dans le paysage.
C'est le tas de fric.
C'est le tas de fric. Et alors, après, on va se demander qui sont les personnages. Alors, c'est très composite toujours hein, chez Jérôme Bosch, mais là, en l'occurrence, ça l'était aussi. C'est un triptyque. Hein. Donc, il y a un tableau qui se referme quand ce n'est pas un jour de fête, dans les églises ou dans les palais. Et on a donc devant soi, à ce moment-là, juste une grisaille. Mais quand on l'ouvre, quand il y a fête, on voit cette critique sociale vous sauter aux yeux. Et on découvre que le roi de France s'y promène. Le roi de France, Louis XI, en l'occurrence, là. Il y a le pape. Enfin, il y a tous les puissants de la terre. Alors, la terre, à l'époque, c'est le duché de Bourgogne, hein, qui est quand même un axe, si j'ose employer ce mot dangereux, un axe en Europe, entre les pays germaniques et puis la France. Et tout est fait pour montrer le danger de l'argent, de la marchandisation. Tout ça avec une espèce de légèreté, de gaieté, mais très ironique, très satirique.
Jérôme Bosch était de quelle nationalité ?
Alors, c'est pas un maître flamand, mais il est né à 40 km des Flandres, dans un pays, une province maintenant, qui est le Brabant. Il était, disons, néerlandais.
Ce sont les Pays-Bas. Alors, quand on pense aux Pays-Bas, on pense à cette rigueur protestante que vous évoquiez tout à l'heure. On pense aussi quand même à un certain amour de l'argent, ou un certain savoir-faire pour justement
tout à fait.
Faire de l'argent.
Hein, vous savez que les Néerlandais disent volontiers, en souriant, « Nous sommes les Chinois de l'Europe ».
Ce qui n'est pas faux, mais...
Ce qui n'est pas faux.
On a été très maladroit à une certaine époque quand on les a poursuivis, tués, et qu'ils ont quitté la France. Si on avait peut-être gardé tous ces protestants, peut-être que notre économie aujourd'hui s'en serait ressentie.
Oui, et alors on trouve effectivement dans les journaux de l'époque, quand sont arrivés les Huguenots auxquels vous faites allusion, on trouve que, eh bien, on se réjouissait vraiment aux Pays-Bas, un peu comme l'a fait Madame Merkel il y a quelques années, de l'afflux de travailleurs étrangers.
À l'époque, on ne se préoccupait pas du paiement des retraites.
Non, pas trop.
Un moment dans votre vie qui vous a marqué, vous en avez cité deux, un très personnel, votre frère.
Oui, la disparition de mon frère, qui m'a... Le prix de sa mort, c'est aussi un don, c'est-à-dire que la mort de l'un est un stimulant de l'autre, aussi cru que cela puisse paraître quand on le dit comme ça.
Ça veut dire qu'on est investi deux fois plus ?
Oui, ça. Alors, bon, je ne voudrais pas tomber dans l'anecdote, mais donc, quand il est mort, l'année où il est mort, en 78, je me suis dit qu'il fallait que j'aille vers un esprit, parce que le mien était trop petit pour tout ça, et j'ai lu Nietzsche. Alors j'ai un peu quitté Nietzsche depuis, mais j'ai lu tout Nietzsche, parce qu'il me fallait, un esprit, il fallait une pensée forte, solide, bien qu'on sache que... Nietzsche n'était pas si solide que ça.
Pas vraiment.
Pas vraiment.
On a vu comment il a terminé.
Mais... Bien sûr, le cheval de Turin.
Absolument. Et après, quelque chose de plus contemporain et de plus public, l'élection de Barack Obama.
Oui, je suis heureux, en antiraciste que je suis absolument convaincu, d'avoir vécu l'élection d'un président noir aux États-Unis. J'ai été effrayé de la mort de Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy. J'étais enfant quand ça s'est produit, enfin jeune, adolescent. Je crois que j'ai pleuré à ce moment-là. Mais là, c'était un triomphe, oui, c'est un triomphe, un petit triomphe de l'humanité malgré tout.
Alors maintenant, il nous reste à voir pour aller toujours plus loin, toujours plus haut, peut-être l'élection d'une femme noire. Mais là, c'est pas gagné.
Non, c'est vrai que Kamala Harris... fait tout ce qu'elle peut, mais on sent bien que
ça risque de ne pas passer, surtout aux élections de mi-term. Je pense que nous allons prendre une... Les démocrates, mais qui l'auront bien cherché par ailleurs, vont prendre une grosse claque.
Oui, oui.
à la question que je vous avais posée, quelle est la personne qui vous a inspiré le plus ? On l'a vu, vous avez devancé finalement ma question en nous parlant beaucoup de Simone Veil.
C'est vrai.
Donc nous n'allons pas y revenir. Non. Mais par contre, l'heure a sonné, comme dirait toujours Philippe Meyer, je m'y réfère souvent parce que c'est. Il m'a appris tout ce que je sais en radio, à l'insu de son plein gré d'ailleurs, puisque je l'ai toujours écouté.
Il continue.
Je l'écoute avec le Nouvel Esprit Public.
Mais l'Esprit Public était mon émission aussi pendant très longtemps.
Voilà, et elle a inspiré d'ailleurs sur cette antenne une émission qui s'appelle Ça va mieux, et où des chroniqueurs se retrouvent pour commenter quelques aspects de l'actualité, comme dirait le maître. Séquence littéraire, alors on a parlé quasiment que de livres dans cette émission, mais c'est ce qui en fait le plaisir et la valeur, je l'espère, pour nos auditeurs aussi. Moi, j'ai cité deux livres de deux philosophes, Le réel et son double de Clément Rosset et Sigil la mer de Cynthia Fleury, qui est philosophe, mais qui est aussi
psychanalyste,
voilà, métier un peu...
Dans le milieu hospitalier, beaucoup, voilà. Dans le care, comme on dit en bon français maintenant.
Voilà, comme dirait Monsieur Biden.
Oui, comme dirait M. Biden.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces deux livres, rapidement ?
Oui, très rapidement. Dans celui de Clément Rosset, Le réel et son double, c'est justement cette insistance à nous montrer combien nous sommes des fabricants du double. Alors, qu'est-ce que c'est que le double par rapport au réel ? C'est une copie du réel, ce double, qui nous satisfait davantage que le réel pur, le réel qu'on pourrait avoir sous les yeux, mais que on dissimule grâce au double en cherchant des moyens d'échapper à la réalité.
C'est le rêve.
Alors, vous appelez ça du rêve, d'autres appellent ça de la religion, d'autres appellent ça du loisir, d'autres appellent ça simplement le refus, les fake news, l'autruche, enfin on peut imaginer des tas de formes de double du réel. Et donc ce que fait dans un livre qui, ma foi, qui fait, je le feuillette là, il fait 130 pages, c'est un petit livre en or de feu. Clément Rosset.
Oui, il est décédé il y a peu de temps.
Il y a peu de temps, il y a trois ans, je pense. Oui. Et voilà, c'est un ouvrage à lire qui suscite beaucoup de réflexions, justement, sur tout cet aménagement de production du double dans notre société, en politique, bien sûr, et puis dans d'autres domaines.
Et alors, Sigil la mer, qui est un livre de Cynthia Fleury. Cynthia Fleury.
Oui,
Bon, vous avez écrit Le royaume qui porte l'eau à la mer, mais j'imagine que ça n'a rien à voir, cette mer-là.
Non, d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous venez de dire aussi, parce que j'attendais qu'elle parle de la mer, qui, pour les marins qui nous écoutent, on sait ce que c'est que la mer, c'est un point remarquable vu du rivage, enfin vu au contraire du large.
Lorsqu'on fait le point, justement, on cherche la mer remarquable, de manière à se caler sur quelque chose de fixe.
Et pas une seule fois, il est question de cette amère-là, alors qu'elle parle évidemment de la mer, de l'amertume. Bon, en bref, c'est d'ailleurs le sous-titre de cet ouvrage, Sigil la mer, qui est un peu un mot difficile, un titre difficile quand on le dit comme ça. Le sous-titre, c'est « Guérir du ressentiment ». Et là, tout est dit. C'est-à-dire qu'elle tente de démontrer que notre démocratie est ô combien précieuse.
Mais ô combien menacée aussi.
Mais ô combien menacée et en même temps génératrice, parce qu'elle nous autorise beaucoup de rêves.
Ça ne fait pas rêver tout le monde, M. Poutine, ça ne le fait pas rêver.
Non,
hein.
Certes, mais nous qui sommes dans un espace démocratique, attendons finalement sans cesse plus de choses de la démocratie, et cette espèce de frustration qui peut naître crée du ressentiment.
Qui naît, frustration, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les jeunes, on va parler des jeunes, mais pas des gens de notre génération, parce qu'on a baigné là-dedans, c'est notre culture, mais aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils recherchent, c'est l'efficacité d'un gouvernement, et peu importe après sa couleur ou ses méthodes pour obtenir cette efficacité.
C'est douloureux pour nous, ça.
Voilà,
justement.
C'est un peu douloureux pour nous, parce qu'on voit bien que la démocratie, telle que nous l'avons connue, telle que les Grecs nous l'ont appris, finalement, est en train de s'éloigner à toute vapeur.
Absolument. Voilà.
Voilà, c'était donc Sigil la mère de Cynthia Fleury, le réel et son double de Clément Rosset, deux excellentes lectures. Alors moi, je vais vous parler d'un... Bon, tout ça se recoupe un peu finalement. Je vais vous parler d'un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, il a été écrit par Vincent Hayne, paru chez Arléa, s'appelle « La disparition de Jim Thompson ». Alors Vincent Hayne est un psychanalyste et un écrivain français, grand connaisseur de l'Asie. Et qui est Jim Thompson? C'est un homme d'affaires américain qui est né en 1906 et qui a disparu en Malaisie en 1967, qui s'est évaporé. C'est
même jamais retrouvé.
De la disparition. Ne l'a jamais retrouvé. C'était le moment où les Américains étaient très engagés au Vietnam et dans toute la région d'ailleurs. C'était un homme qui avait une collection d'œuvres d'art asiatique très très développée, qui a fait une maison qui était absolument fabuleuse, qui est devenue un musée d'ailleurs aujourd'hui, une maison dans les traditions locales, un homme qui était très au fait de toute la politique thaïlandaise, de tout ce qui se passait dans les services secrets américains, lui était bien connu dans cette partie du monde, parce qu'il avait fait partie de l'OSS, pas OSS 117, mais il avait fait partie, et puis après de la CIA, et on se demande toujours ce qui lui est arrivé. Il était en villégiature chez des amis, il va faire un tour dans la jungle qu'il connaissait très bien, parce que c'était un homme... Et il disparaît, et sa sœur, quelques temps après, va être assassinée dans des conditions absolument horribles aux États-Unis. Et donc, Vincent Hayne s'est attaché à nous décrire un peu quelle était la vie de Jim Thompson. Donc, on vit un peu en Thaïlande, hein, avec cet homme qui était amoureux de ce pays. On parle beaucoup de faune, de flore, d'habitude de vin, de mets. En fait, tout concourt à nous dépayser. On se retrouve vraiment en Thaïlande à cette époque. Jim Thompson s'y était installé après son passage dans les services secrets pour commercer de la soie. Et Vincent Hayne mène cette enquête avec, toile de fond, la guerre du Vietnam, les services secrets américains. Et puis on parle un peu de ce qu'éventuellement il a pu savoir de l'assassinat de Kennedy. Nous y revenons, boucle la boucle, pour terminer cette émission. Ce livre est absolument passionnant. Ça démarre très calmement avec une description très, très savoureuse, hein, de la Thaïlande, de la vie en Thaïlande. Et puis d'un coup, ça prend cette accélération quand on décrit la disparition de Jim Thompson, les recherches qui sont faites par ses amis, certains militaires, certaines personnes anciennes de la CIA. Et vous verrez les conclusions que tire Vincent Hayne qui sont extrêmement intéressantes. Alors, est-ce qu'il a été enlevé? Est-ce qu'il a disparu volontairement? Est-ce qu'il savait beaucoup trop de choses? Il avait aussi aidé un homme politique thaïlandais à se cacher et à échapper aux services secrets, à ses anciens collègues, à se cacher en Chine. Donc voilà, c'est un homme qui, au départ, a vécu de surface, d'amateur d'art, d'esthète, de couturier, puisqu'il faisait le commerce de la soie. Il a été chez Vogue, le magazine Vogue a publié un certain nombre de ses créations. Et puis, brutalement, il disparaît et on ne retrouve jamais rien. C'est très surprenant. Voilà, Jim Thompson, si vous voulez en savoir plus, et vous ne vous ennuierez pas du tout, vous allez faire un très beau voyage en Thaïlande, La disparition de Jim Thompson, de Vincent Hayne, j'ai un peu de mal à le prononcer, je ne sais pas quelle est sa nationalité.
C'est écrit comment?
H-U-N, Vincent Hayne.
Hayne, oui.
Chez Arléa, c'est pas un gros livre, mais vous prendrez beaucoup de plaisir de lecture et vous allez être extrêmement intrigué.
Ça paraît captivant.
Tout à fait, Pierre-Jean Brassac, on est arrivé à la fin de cette émission. Nous allons vous retrouver bientôt, ça je l'ai bien noté dans ma tête. Merci d'être venu.
Merci à vous.
Sur Esprit Occitanie.
Et à notre technicienne.
À notre technicienne, Tiphaine Lemel, est comme d'habitude au bouton. Merci Tiphaine. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne, dont vous pourrez retrouver le podcast de cette émission et tous les autres podcasts, bien sûr, aussi sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.
Merci.